face à Duhamel avec l'éditorialiste Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. Ça a été le grand oral devant les patrons aujourd'hui pour la majorité. Le Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National sont venus présenter leur programme économique dans des temps d'instabilité, ce que n'aiment pas vraiment les patrons. Dans un contexte aussi où la note de la France a été dégradée par une agence, où l'Europe épingle aussi le pays pour déficit budgétaire excessif, on présente le programme du Nouveau Front Populaire comme étant un épouvantail. Pourtant, il est des grands patrons connus, reconnus, qui appellent à voter pour lui. Exemple, Mathieu Pigasse.
Ce qui est bien avec le MEDEF, c'est qu'on n'est jamais déçu. Donc je ferai plusieurs commentaires sur ce communiqué du MEDEF. Le premier commentaire, c'est que le MEDEF n'a jamais été courageux ni réformiste, et on voit qu'il ne change pas. Mmh. Le deuxième commentaire, c'est que j'aimerais savoir au fond le regard qu'il porte sur le bilan économique de la présidence d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Économie et des Finances. Moi, j'ai toujours eu un engagement clair et fort, et donc je vais le redire aujourd'hui. J'appelle en effet à voter Nouveau Front Populaire. Je considère qu'il faut tout faire pour faire barrage au Rassemblement National.
Alors, est-ce qu'on a raison de présenter le MEDEF, en tout cas, le programme du Nouveau Front Populaire comme étant l'horreur absolue pour l'économie de la France?
Alors, d'abord, Pigasse, il est très brillant, mais il est très atypique dans son milieu. Il ne faut pas en faire... Bon, ce n'est pas le symbole et le plus représentatif du MEDEF. Alors, sur votre question, moi, je dirais que le programme économique du Nouveau Front Populaire, il a deux qualités et deux défauts. Les deux qualités, la première, c'est qu'il est, ce qui est très rare pour les programmes, honnête. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils veulent faire et même qu'ils vont jusqu'à essayer de le mesurer. Et donc, par exemple, Valérie Rabault, qui est quelqu'un de sérieux, qui est une des dirigeantes socialistes, a dit « ça coûtera 106, notre programme, il coûte 106 milliards ».
Alors, la France Insoumise n'est pas d'accord.
La France, non, mais justement, ça va dans mon sens. La France Insoumise a répondu « non, non, beaucoup plus ». Et le gouvernement, évidemment, a dit « bah oui, au moins le double et peut-être le triple ». Bon, donc c'est quand même, je le relève parce que c'est pas banal. Bon, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ce qu'il propose, ça va être populaire. Populaire, pas auprès de tout le monde, mais populaire. Quand on dit « on va augmenter les salaires, on va diminuer l'âge de la retraite, on va construire des logements sociaux, etc. »
Et on va taxer les super riches.
Oui, en plus, c'est ce qui est quand même un grand plaisir. Ça va plaire à une partie de la population. Bon, ça a aussi deux défauts. Le premier, c'est que c'est contraire absolument à la situation actuelle. C'est on est, et alors là, le gouvernement porte une forte responsabilité, on est dans une situation financière désastreuse. On est sous le coup d'injonctions de Bruxelles. On est dans une situation qui ne peut pas durer comme ça. On a un endettement qui est devenu déraisonnable. Bon, et évidemment, dans une situation de ce genre, la sagesse et l'expérience, puisque c'est une situation qui a déjà existé dans beaucoup de pays, c'est d'être parcimonieux, d'être prudent et même d'être avare. Bon, eux, c'est absolument le contraire. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils sont exactement à l'opposé de tous nos engagements européens et au-delà du marché, etc., etc. C'est même pas un sujet de discussion. C'est une évidence. Alors, je dirais qu'au fond, on a le programme du Rassemblement National qui est un brouillard, qui se défait par petits morceaux sans qu'on sache ce qui reste derrière, que le programme du gouvernement, c'est la diète, et que le programme de la gauche, c'est un rêve.
Alors moi, j'ai beaucoup de mal à commenter ce programme parce que j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas du tout un programme pour être appliqué.
Ah bon ?
Non.
C'est embêtant.
Alors, je suis plutôt d'accord avec l'idée qu'il faille faire plus payer les riches.
C'est pour faire rêver alors, comme le dit Alain ?
Non, même pas pour faire rêver. Je pense que les socialistes,
pour faire voter.
Les socialistes et les insoumis se sont dit, en bons républicains de gauche, l'extrême droite arrive. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive en deux jours à un programme parce qu'il nous faut un seul candidat par circonscription. Donc les socialistes ont été très fermes sur les valeurs, c'est-à-dire les 5 points, antisémitisme compris.
Et la politique étrangère.
Et la politique étrangère, je mets ça dans les valeurs. Ils ont été très fermes là-dessus, ils n'ont cédé sur rien. Et ils ont cédé à côté sur tout ce qui est social. Et ils savent très bien, je pense, Valérie Rabault, que vous avez citée, sait très bien qu'elle ne gouvernera pas avec la France insoumise.
Et qu'en donc on est en train de rouler dans la farine une bonne partie des électeurs.
Elle
ne
roule pas dans la
électeurs,
farine,
eux,
elle,
ils
dit,
sont sincères.
Elle dit, oui, bah, elle dit, petit, il y a un...
C'est pas la première fois à gauche, non, hein, non, que les électeurs de gauche se sont trahis.
Ni à droite, ni au centre, qu'on roule dans la farine. Mais
ni à droite, ni au centre.
Elle dit, je pense que cette alliance dit... il faut qu'il y ait qu'un seul candidat et pour c'est une alliance électorale et après les élections ils iront dans leur coin. Ah bon, mais ça se faisait avant avec les socialistes et les communistes, ça s'appelait le désistement républicain, ça se faisait entre les deux tours.
Mais c'est pas les programmes ensemble.
Non, ils avaient des programmes très différents. Ils allaient au premier tour différemment et puis entre les deux tours, quoi qu'il arrive, ils se désistaient pour l'autre.
Mais quel programme sera
attendez, là on ne peut plus faire ça parce qu'on n'est plus en bipolarité mais en tripolarité. Donc ils font ce désistement républicain avant, ça passe par un tripatouillage pas très glorieux, mais c'est la seule façon, peut-être, d'empêcher le Rassemblement national, c'est pas glorieux, d'avoir une majorité absolue.
Alain, d'accord, voilà, mais
donc,
Alain,
je ne le commande pas sur le fond parce qu'il ne sera jamais appliqué.
Mais bon, enfin, c'est la gauche part pour gagner. La gauche part pour gagner, si elle arrive au pouvoir.
Elle le dit, elle ne part pas pour gagner.
On ne sait jamais 10 jours avant. Hein. Bon, mais,
si gagne,
disons, pour essayer d'être honnête, nous, à notre tour, disons qu'elle n'est pas favorite dans cette élection-là.
Si jamais elle gagne, elle n'appliquera pas son programme, dit Thomas Legrand.
Pas celui-là.
Donc l'électeur de gauche, qui croit sincèrement qu'on va augmenter le SMIC à 1600 euros, qu'on va dépenser autant d'argent.
S'il gagnait, ce que je ne crois pas, s'il gagnait, pendant les 6 premiers mois, il prendrait 2 ou 3 grandes mesures symboliques dans leur programme pour dire, voyez ce qu'on fait pour vous. Et au bout de 6 mois, ça serait une catastrophe. Les taux d'intérêt grimperaient de façon ridicule, les investisseurs ficheraient le camp, tout le monde aurait la faim. Dans le monde économique, tout le monde aurait peur, les investissements en France diminueraient. Je veux dire, c'est inéluctable
donc
dans un cas comme ça.
Mitterrand en 83, donc il changerait.
Oui, mais plus
mois.
Vite.
6 mois,
Mitterrand,
vous dites.
Lui avait fallu 2 ans, là, ça serait 6 mois.
Mais François Hollande, il a aussi déçu les électeurs de gauche qui n'ont pas compris tout d'un coup son virage moment donné de son quinquennat.
C'est le drame de l'élection présidentielle à la française et de l'élection législative au suffrage tel qu'il est.
C'est tromper les électeurs de gauche.
Il faut dire des choses pour être élu qu'on ne peut pas faire une fois qu'on sera élu. On est toujours obligé d'amender tout ça. C'est pour ça que Michel Rocard n'a jamais été président. C'est pour ça que Jacques Delors n'a jamais été président. C'est pour ça sans doute que Raymond Barre n'a jamais été président, que Simone Veil n'a jamais été président. Moi, j'ai écrit un livre il y a quelques années, un petit peu provocateur, Arrêtons d'élire des présidents. On est lié à un Premier ministre parce qu'un président a fait une grosse bêtise.
Mais ça veut dire, tout à l'heure, on avait un chef d'entreprise avec nous, un artisan boucher. Il a 3 boucheries et il racontait qu'en fait, il ne croit plus à ce qu'il entend. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix sur des, qu'on le laisse travailler, gagner sa vie sur des principes simples, c'est-à-dire un petit allègement des charges, un petit allègement des normes, et qu'on arrête de l'emmerder.
Donc en fait, ce qu'il disait, c'est pas la peine. Non, mais ce qu'il disait, c'est pas la peine.
C'était de.
En plus, il disait, moi, le grand oral des responsables politiques devant le MEDEF, j'y comprends.
Ils se sont pas représentés par le MEDEF.
Je m'en fous. Et ça me remet dernier atout devant ceux qui nous prêtent. Et Emmanuel Macron a cassé cette stabilité. C'était notre plus grand atout par rapport à notre dette. Voilà, il a cassé ça. On avait la stabilité.
Il y a vraiment un décalage.
Oui, la visibilité. On savait que ça allait changer dans 3 ans. Voilà. Là, on est dans une période d'incertitude qui va peser sur les taux d'intérêt. Si le Front National gagne, peut-être que si la gauche gagne aussi, mais...
Ah bah pas peut-être, sûrement. Dans les deux cas.
Pour moi, ce que je disais, donc, sur le décalage qu'il peut y avoir entre ce grand oral devant le MEDEF et ce que vivent finalement la très grande majorité de ceux qui travaillent aujourd'hui en tant que artisans et PME.
Ça n'est pas un hasard s'il y a une distance croissante avec la politique. Bon, en même temps, il ne faut pas être systématiquement pessimiste, parce que les Français se sont quand même rendus compte que c'était quelque chose de sérieux qui allait se jouer. Et quand on voit l'augmentation, alors, je ne connais pas de précédent d'augmentation, enfin d'intention bien sûr, il faudra vérifier que ça se produise, mais d'augmentation de l'intention de participation dans les proportions qu'on annonce maintenant.
Oui.
Si c'est vraiment ça, c'est en tout cas, non pas que les gens retrouvent une passion pour la politique, mais qui se disent que cette fois-ci, on entre vraiment dans du sérieux, et probablement parce qu'ils se disent ça, du sérieux qui les concerne.
Avec un mystère sur le, avec un mystère sur l'effet de cette augmentation.
Mais non, mais je dis pas, je ne suis pas en train de dire ça va profiter à X ou Y, je n'en sais rien. Mais je dis, je ne connais pas dans l'histoire électorale de la France, donc pas simplement sous la Ve République, même avant, je ne connais pas dans cette histoire-là une mobilisation aussi rapide en aussi peu de temps. Mais et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se considérer que tout est joué. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les programmes, parce que je pense que chacun des programmes aura une chance d'être appliqué pendant 6 mois avant d'être oublié.
Il y a aussi une question depuis quelques années, même peut-être depuis plus d'une dizaine d'années, on dit que chaque élection va se jouer avec les classes populaires. C'est les classes populaires qui sont le plus disputées. La gauche a perdu les classes populaires. La droite reprend les classes populaires. Où vont aller les classes populaires ? C'est elles qui se
mobilisent. Pas la droite, l'extrême droite.
L'extrême droite. Oui, l'extrême droite. C'est les classes populaires qui se mobilisent le moins. Donc à partir du moment où, dans la tête de ceux qui veulent être élus, il faut mobiliser les classes populaires, il y a deux solutions, beaucoup de sécuritaires ou beaucoup de sociales. Et donc il y a des surenchères.
Il y a des surenchères. Il y a une spécificité.
Dans les deux cas.
C'est que la gauche et la droite avaient été exclues avec l'élection d'Emmanuel Macron. Il y avait une espèce de chamboule.
Ils avaient été marginalisés.
Ben maintenant, ils avaient été exclus.
Ils reviennent avec des problèmes de rupture.
Elles reviennent deux fois plus fort.
Non, elles reviennent pas deux fois plus fortes.
Oui, mais
le rassemblement.
Deux fois plus polarisé.
Le rassemblement national a mis en pièce les Républicains et observé une bonne partie de son électorat.
C'est que là, les Français sont.
Et à gauche.
Ce que je veux dire, Emmanuel Macron voulait le dépassement.
Oui, mais Thomas,
il a la bipolarité encore plus puissante.
Il y a eu le chamboule tout et l'inédit avec Emmanuel Macron. Oui. Sauf que là, les Français, avec l'élection européenne, et si on se fie simplement aux intentions de vote, ils se disent, écoutez, finalement, Emmanuel Macron, il a pas réussi. La gauche, on sait où elle est. Donc finalement, ceux qui n'ont jamais été au pouvoir et qui n'ont jamais pu essayer d'appliquer leur politique, C'est le
meilleur argument du Rassemblement national, on le sait bien tous, il n'a jamais servi. Alors essayons, testons, regardons, etc.
Oui.
Bon,
même économiquement, tentons ce qu'il nous propose.
Oui, absolument.
Enfin, essayons, on verra au 7 juillet au soir.
Alors que quand on regarde les choses, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe, quand on regarde les choses depuis un mois, depuis qu'on est en fait entré en crise, qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, depuis ce temps-là, on voit l'ensemble du programme du Rassemblement national qui se défait bloc après bloc. Ah ben ça, non, ben finalement, c'est pas pour maintenant. Ça, on n'en parle plus.
Ça peut avoir, d'ailleurs.
C'est très rare. Moi, j'ai souvent vu des programmes se défaire après les élections, mais avant les élections... Oui. Quand en plus on est favori, oublier les trois quarts du programme, renoncer à ceci, ne parler de cela qu'avec beaucoup de précaution.
Parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont gouverner.
C'est intéressant
la gauche.
Parce que dans beaucoup d'autres pays où l'extrême droite est arrivée, je mets Trump dans le lot, plus il approchait l'élection, plus il radicalisait. Une fois élu, il a encore radicalisé. Vous vous souvenez, après l'élection de Trump, on s'est dit, peut-être que l'état profond va le rattraper, il va rentrer dans la bienséance politique qui est de mise. Et pas du tout. Là, c'est le contraire. Effectivement, ça se délite. Mais on ne sait pas du tout quel effet ça peut avoir. Les gens peuvent se très bien se dire, tout ce qui nous faisait peur, ils l'enlèvent. Et là, on va avoir le coup de balai des gens qu'on n'aime pas. On va avoir le beau TikToker à la place du... Le beau TikToker.
D'accord. Je crois que la différence, ce qu'il a aussi, s'il l'emporte...
Je ne suis pas sûr que ça fasse ça.
La différence, s'il l'emporte, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont favoris. Et ils sont favoris pour gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils soient déjà favoris pour avoir la majorité absolue. C'est très différent. Mm-hmm. Parce que gagner en n'ayant que la majorité relative, c'est une autre phase complètement différente qui commence.
Ça dépend.
Et de ce point de vue, le fait de détruire leur propre programme avant d'arriver au pouvoir, c'est aussi quand même une drôle d'attitude par rapport à cette volonté d'avoir la majorité absolue.
Vous pouvez demander à M. Attal, que vous allez recevoir, quelle serait d'ailleurs son attitude entre les deux tours, non pas face au Front Populaire, mais est-ce qu'il distinguera les socialistes, les écologistes, les communistes
Ils y auraient pensé tout seul.
Oui, mais il répond toujours sur... Attention, il va répondre Front Populaire. Faites la distinction, il y a la relance.
Petit conseil. Il y a les bons et les mauvais. À gauche, c'est ça.
Merci Thomas Legrand, merci Alain Duhamel.